Un matin, vers 9h30, les 6 automates dans le hall inférieur de la gare étaient occupés et j'ai couru vers le premier qui me semblait se libérer. Mais j'étais assez loin, à 20 mètres environ, dernier d'une file devant le guichet des départs immédiats. L'automate m'était caché par un des piliers du hall. Face à moi, il y avait une des portes d'entrée et tout de suite à gauche, la boutique presse. La question, comme d'habitude, était de combiner dans les quelques minutes restantes avant le départ du train l'achat d'un journal et du billet. L'automate n'était pas libre. Une femme qui s'était accroupie pour ramasser des affaires tombées de son sac s'est relevée et a ramené sa main vers l'écran. Elle a reculé d'un pas en frappant du pied par terre, puis a plaqué ses mains sur ses tempes. Rien de pire autour d'elle que cette pression d'attente qui se donne l'allure de la patience. Rien de pire que cette mansuétude forcée pour la maladresse, que cette indifférence des dégourdis. Rien qui isole plus. Elle a raté les premiers touchés sur l'écran. Elle tourne la tête en soupirant, excédée, pendant que la machine revient au point zéro des questions. Gare de départ, gare de destination. Il faut savoir les trois premières lettres des noms à écrire. L'escarène ou escarène. En cas d'erreur, il faut revenir en arrière, chercher l'image qui le permet. Elle a posé son sac entre ses jambes pour pouvoir ouvrir le dépliant horaire et s'assurer de l'orthographe du nom. Il y a quelque temps encore, il s'agissait de s'expliquer avec le guichetier. Maintenant, il faut toucher un écran. Derrière, il y a toujours des gens qui attendent, qui savent mieux, qui soupirent à chaque erreur. C'est humiliant au possible. Comme être regardé par-dessus son épaule en train d'essayer d'écrire quand on ne sait pas écrire, avec en plus la sanction de la machine infligée en public. Pas conforme, plus que bête. La machine simplifie selon une estimation rigoureusement établie du plus simple et de l'élémentaire en matière de dialogue avec le public. Mais l'élémentaire n'est pas le même pour tous. Il faut savoir aussi s'adapter à l'élémentaire officiel. Le programme informatique des billetteries est un programme minimum de la culture du choix. Personne n'en sort fier. Elle a crié « Non !» en frappant à nouveau du pied. Elle a tourné un visage éploré vers les gens autour, pressée de partir, pressée de prendre sa place, pressée qu'elle en finisse. Pour elle, ça ne finit pas. Elle a encore recommencé. Mais elle perd ses moyens. Elle s'est retournée vers quelqu'un tout à côté qui semblait aussi perdu qu'elle. Elle a dit « Ils vont m'attendre », sans préciser qui. Dans ses yeux, quelque chose de terrorisé ne concernait déjà plus le fait d'être en retard ou d'être attendu. Elle a bredouillé quelque chose sur ses enfants en regardant l'écran, puis quelque chose à propos du travail et de sa belle-mère. Et là, elle est restée un moment figée, les yeux comme aimantés par l'écran. Son regard s'est vidé de toute expression, de toute pensée. Comme s'il cherchait à faire entrer sa détresse dans le programme de l'ordinateur. Certains clients autour d'elle ont commencé à renoncer. L'un est allé à la console d'à côté qui venait de se libérer et l'autre s'est précipité vers les escaliers. Elle l'a regardé partir. Comme pour deviner la solution qu'il venait de trouver, elle avait envie de pleurer, le temps passait. Elle a tenté une fois encore de recommencer, mais ses intentions chaotées, se télescopaient, sans jamais aboutir. Elle était secouée, ballottée, dans un remous de gestes inachevés, d'élan impossible à conduire. On voit sans doute un peu partout tant d'existences étranglées que personne n'a pu voir que cette femme aux yeux exorbités qui ne bougeait plus depuis déjà quelques secondes devant cette machine était subitement vidée, désertée, que ses chairs devenues molles et son cerveau inhabité cherchaient le fracas comme un train fou lancé sur la voie. Personne ne bougeait. Tout à coup, autour d'elle, alors qu'une sérénité presque chaude l'envahissait, et comme en écho de sa propre absence, le silence s'est fait. Elle s'est effondrée au sol sur elle-même, comme une tour de HLM dynamité. Sur l'écran, aucun retour en arrière possible. Toujours cette insistance froidement ironique de la touche « Autre ». Sa tête cherchait le contact du carrelage, comme pour mieux s'y enfoncer ou pour mieux s'y étaler. Elle avait de temps à autre d'imperceptibles mouvements de la nuque et du menton qui n'aboutissaient pas, qu'elle répétait. C'était la seule chose pour elle qui semblait encore compter. Un homme qui se trouvait à côté d'elle s'est approché, s'est baissé pour l'aider à la remettre sur ses pieds et s'est aussitôt écarté. Il est resté debout à deux pas de sa tête et ses yeux se sont fixés sur elle comme s'il ne voyait plus rien. Sa robe découvrait à peine le bas de ses mollets et ses deux jambes penchées dans le même sens, dans un mouvement de torsion qui ressemblait à celui d'un linge que l'on tord ou d'une plante qu'on arrache. Aucune des formes humaines qui se trouvaient là ne parvenait à son regard. Ses yeux étaient affreusement calmes et grands ouverts, comme ceux des anciennes poupées de porcelaine, dont la précision inexpressive remplit de malaise. Un rictus tirait sa bouche des deux côtés, par un sourire de noyé. Son maquillage, curieusement intact, très soigné, prenait un relief morbide. Un train rapide que beaucoup devaient prendre était sur le point de partir. On se pressait vers les guichets pour gagner du temps. Nul n'a fait la moindre allusion à ce qui se passait là. En fait, pour chaque voyageur, là, il ne se passait rien. La gare n'est pas un lieu, c'est un moment entre deux lieux, et d'ailleurs, ça ne se conçoit qu'en termes de temps. Ce qui s'y passe ne se passe nulle part. Elle est restée au sol, comme abrutie par le choc, dans une inextricable perplexité. Parmi le peu qui était resté, et d'autres qui arrivaient, personne n'a su quoi faire ni quoi répondre à son sourire vers le vide d'automate désarticulé. Les pompiers ont serré les sangles de la civière. Il lui est venu alors une sorte de hoquet. Les deux employés de la SNCF qui s'étaient rapprochés ont voulu dire quelques mots pour dédramatiser, un peu comme on tâcherait de le faire devant des invités scandalisés. L'un des deux a parlé de souffrance humaine, de déchirement privé qu'on ne peut pas soupçonner et de l'absence de raison objective pour expliquer ce drame. Puis, l'autre a renchéri sur le mérite du système de billetterie électronique et sur son incompréhension de l'accident. Incompréhension qu'il supposait partagée par tout le groupe de voyageurs immobiles et comme pétrifiés. Il a ajouté, sans doute pour conclure, alors que personne ne lui répondait, « Les gens, on ne peut pas être dans leur tête. » Les pompiers ont soulevé le brancard. L'un d'entre eux s'apprêtait à ouvrir un chemin dans la foule qui s'était rassemblée. Ils parlaient dans un talkie-walkie qui grésillait. Ils sont restés là encore un court moment. Les curieux ont commencé à se disperser et les employés de la gare ont disparu aussi. Elle a eu alors un petit geste de la main, une sorte d'au revoir heureux, un geste de princesse, léger comme l'air, la tête penchée sur le côté et le regard toujours aussi fixe, aligné sur le bord du brancard. Elle semblait sourire d'un bonheur neuf, comme au sortir d'un rêve. Son visage rayonnait d'une douceur sans commune mesure avec les expressions de tension hagarde ou angoissée qui l'entouraient. Malgré le vacarme et le mouvement incessant dans le hall, c'est une impression de silence d'alcôve qui dominait. Tout dans cet espace semblait prendre sa mesure à elle, celle d'une femme au foyer pendant les heures vides qui précèdent les retours d'école. Tandis qu'on l'emportait, ses lèvres se sont mises doucement à bouger. Il n'est pas sûr qu'elle parlait.